93.
La même année où j'ai passé, et je t'en ai fait avec sa tête une sucre d'orgueille, parce que je voulais me faire passer pour un Garvey. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut TQ, on se reverra le 7 janvier.
Eh oui, 23 décembre, lundi 23 décembre, juste avant le réveillon. Et quelle belle façon d'être avec des gens de qualité comme Alex. Bonjour Alex, comment vas-tu avec ton micro trop haut?
Ben, salut Marc, ça va toi?
Ça va, oui. Will D'Olive qui est là pour deux semaines?
Oui, absolument.
Côté sport, tu vas aussi nous raconter ton quotidien.
Exact, exact. C'est toujours ça que je fais.
Ce qui t'effraie.
Oui.
Julie, ça va bien?
Je suis prêt. Moi, je cherche des nouvelles.
Tu cherches des nouvelles? Mais tu m'as dit qu'il n'y avait pas grand-chose dans
l'actualité. C'est ça, c'est pour ça que je cherche.
Ah oui, tu vas continuer?
Je ne sais pas.
On va-tu pouvoir t'interpeller à l'occasion?
Oui, je vais vous écouter quand même. Ben oui. Non, c'est ça, je peux les dénombrer, puis il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais
on a un invité spécial.
Ben, c'est ça qui arrive.
J'ai un co-animateur invité qui est François Morency devant moi. Comment vas-tu, François?
Enfin, du contenu dans ce show.
Exactement, là, ça va.
Il fallait que j'arrive. C'était l'urgence.
Ça fait dur, je vais te dire de quoi. Nous autres, on est là, on trouve des sujets,
Non. C'est
là,
terminé, le party.
Voilà.
Donc, sortons les vrais dossiers.
On part tout de suite avec la nomination éventuelle de Jean Charest au Parti conservateur.
Oui.
François, qu'est-ce que t'en penses?
Il fait beau, hein?
Non, mais
je parlais avec Julie, justement. Je lui disais que je connais très bien le producteur du Bye Bye. Et eux autres, ils tombent en congé ce soir. Ce soir, 23 décembre, l'émission du Bye Bye, elle est posée, balancée, montée. Ils ont fait ce qu'on appelle un focus group il y a deux semaines. Ils avaient trop de matériel, ils ont coupé. Et donc, à preuve qu'après une certaine date en décembre, dans l'actualité, il ne se passe plus rien, à moins d'un vrai scandale, d'une catastrophe, d'un écrasement d'avion, quelque chose de majeur. Mais au niveau du Bye Bye, c'est une tradition qu'à peu près au 23 décembre, l'émission, elle est faite, écrite, tournée, produite. Et puis là, ben, ils attendent la diffuser.
Puis, ça t'est déjà arrivé? Tu penses que tout à coup, il est arrivé un soi-disant événement
hallucinant? Si oui, moi, je suis pas au courant. Okay. Mais comme je disais à Julie, c'est un événement. Mettons que dans le Bye Bye, tu as un sketch où tu parodies Justin Trudeau, ce qui risque d'arriver cette année, mettons, et que M. Trudeau a un accident majeur ou se fait assassiner ou je sais pas quoi, ben là, tu n'as pas le choix de réagir et de faire en conséquence.
Ouais. Mais,
outre un événement de cette ampleur-là, normalement,
c'est dans Cannes, comme on dit.
C'est dans Cannes, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien qui se passe, les politiciens sont en vacances, il n'y a plus rien.
Mais admettons que Claude Julien se fait congédier, c'est le 28 décembre. Est-ce qu'on doit absolument ramener les scripteurs et tout le monde pour tourner de quoi là-dessus ou bien on passe à côté de la traque?
C'est une très bonne question. Je pense que ça va dépendre de est-ce qu'ils traitent déjà du hockey dans l'émission.
Okay.
Si oui, ils vont se dire, premier réflexe, est-ce qu'on peut adapter ce qu'on a déjà pour le modifier? Est-ce que ce qu'on a déjà marche encore ou si le fait qu'il soit congédié, tout s'écroule? Ils vont évaluer ça, je te dirais. Ils vont se faire un meeting téléphonique d'urgence. Et s'ils peuvent réajuster sans remuer mer et monde, ils vont le faire.
Okay.
Mais si ce qu'ils ont déjà prévu tient la route, ça va garder, ça va rester asis, comme on dit.
Intéressant.
Ouais.
Rappelles-tu, après le 11 septembre, tous les humoristes aux États-Unis qui animaient des talk shows disaient à partir de quelle date on peut recommencer à faire des jokes là-dessus?
Je me rappelle
qu'est-ce,
très
qu'est-ce
bien.
Qu'est-ce que tu penses de
ça, toi? Le premier avait été Letterman, qui, lui, faisait son émission, évidemment, de New York. Donc, c'était un peu. On se disait, les autres se disaient, si lui commence...
Il donnait le ton, là.
Oui. Et ça a été, je me rappelle pas de combien de temps. Je pense que c'est une semaine que ça a pris avant que lui revienne en onde. Et ça avait été une émission très émotive, très spéciale. Il y avait pas tant de jokes. Je pense qu'il n'a même pas fait de monologue d'ouverture. Il a commencé assis à son bureau, je me souviens bien. Et il y avait un invité. Je crois que c'était le gars qui fait les nouvelles à l'époque à CBS... Eh ben, j'oublie son nom, un genre de Bernard de Rome là, aux États-Unis. Là, bref. Et ils avaient échangé ensemble sur... Juste pour en parler, pour exorciser un peu ce qui se disait un peu partout.
Genre, on peut en parler du
moins. Oui, c'est ça. Parlons-en, comment tu as vécu ça, toi, puis pourquoi c'est arrivé, puis qu'est-ce qu'on sait vraiment. Donc, mais il y a toujours, évidemment, on peut... Quand est-ce qu'on peut en rire, t'sais? Ça, c'est une autre question. Là. T'sais, c'est vraiment... T'sais, là, quelqu'un a dit, le rire, c'est le drame plus le temps. Donc, faut que tu laisses passer du temps avant de pouvoir rire.
Mais ça prend
choses.
Un drame pour pouvoir rire de quelque chose.
Ben, un drame peut être un divorce. Ça
ou
peut
tomber
être,
sur une pelouse de banane.
Voilà. Ouais. Ça prend un événement, entre guillemets, malheureux.
Ouais.
Dont tu peux rire. Évidemment, la distance psychologique, la distance du temps, la distance géographique fait en sorte que tu peux en rire plus rapidement. Si, je pense qu'on pouvait rire, entre guillemets, plus rapidement ici au Québec d'un événement comme le 11 septembre parce que c'était pas arrivé ici vraiment. Mais tout le monde s'est gardé une petite gêne, je pense. Je me souviens bien. Là, ça a pris un certain temps, on va te faire des blagues là-dessus.
Mais toi, t'es pas si loin de cette réalité-là, parce que cette année, ton père est mort.
Oui.
Puis tu scriptes littéralement l'histoire de ta famille.
Oui.
Première saison, t'étais très, très proche de la réalité.
Oui.
Maintenant, t'es tombé en fiction, genre, parce qu'à un moment donné, there's so much you can see.
Voilà.
Mais comment où c'est que ta plume arrête puis continue par rapport au
fait
que...
Ben moi, je m'étais préparé mentalement à ça.
Comme à rencontrer Julie, tu m'avais dit aussi.
Oui, c'est ça, beaucoup de training, ouais. un camp genre au Vietnam.
C'est l'événement 2019.
Ouais, ouais, oui, comme les talibans, là, je fais les monkey bars, puis ouais, je me prépare physiquement. Ouais. Non, je m'étais préparé parce que mon père, quand j'avais écrit le livre qui précède la série télé, mes parents avaient déjà 88 ans. Donc, ils avaient déjà dépassé les statistiques de longévité. Donc, je m'étais mentalement dit, OK, s'il meurt pendant que j'écris le livre ou pendant que je le sors, comment je réagis à ça? Fait que j'étais déjà prêt à ça. J'avais un bout de chemin de fait à cet égard-là.
Oui, je suis.
Et quand mon père est décédé, c'était tout sauf une surprise. Il était malade physiquement, mentalement. Donc, j'avais eu le temps de mûrir ça. Puis son décès était jusqu'à un certain point souhaitable parce que sa vie était rendue vraiment pas agréable, ni pour lui, ni pour personne. Donc, malgré la douleur qui arrive quand ça arrive, il reste que c'était pas une surprise. C'est pas comme si tu perds quelqu'un tragiquement d'un accident de la route.
Le coup de téléphone qui dit que...
Ouais, ça doit être une autre game.
Ben oui.
Mais quand c'est prévisible et jusqu'à un certain point, comme je te dis, souhaitable parce que c'est plus fun, puis que lui-même, jusqu'à un certain point, le souhaite presque... Voilà.
Tu vas m'expliquer quelque chose parce que discussion avec mes parents, là, c'est quelque chose que j'ai rarement vu en termes d'amplitude.
C'est fou.
Parce que ma mère écoute ça, là, c'est une de ses émissions préférées. Moi, je l'ai très peu vu parce que, comme tu le sais, je n'ai même pas le câble, je n'ai pas la télé, mais ma mère l'a très, très peu vu. Puis le gars à Julie qui a 13 ans, c'est quoi dans son top 3?
Ah, moi, mon chum puis mon fils écoutent ça puis ils se bidonnent. Là. Puis là, à un moment donné, moi, je ne l'écoutais pas. Puis là, je me suis mise à l'écouter aussi.
Là, moi, je lui ai dit, arrête d'écouter ça.
Non, c'est ça. Il y a même des sketchs, là, récemment, celui avec la blonde de ce monsieur sécheuse. Là.
Oui, Gisèle Sange. Oui,
celle-là, écoute, on l'a pleuré de rire. Vraiment. Tu sais qu'à l'épicerie, l'animateur, pas de l'épicerie, de la facture, s'appelle François Sange. Puis à chaque fois que District 31 termine, ils disent toujours... la facture qui suit avec François Sange. Puis à chaque fois, on la riait d'avance, nous autres, celle-là, on la trouvait drôle. Fait que quand c'est arrivé puis qu'on a vu ça dans ton émission, on fait comme, OK, c'est ça. C'est un autre truc de Sange.
Non, c'est vraiment... ça, j'avais pas prévu ça, ce succès-là, en termes de variété de génération. Moi, je pensais rejoindre les gens à peu près qui ont mon âge ou qui ont un vécu à peu près similaire au mien, donc des gens qui ont eu des parents qui sont restés ensemble assez longtemps, Québécois pur laine, tout ça. Mais non seulement il y a une variété au niveau des générations, mais au niveau de l'ethnicité. Ça fait deux fois que je vais dans une école secondaire à Ville-Saint-Laurent, qui est un quartier archi-multi-ethnique de Montréal, où il y a une prof qui est une Québécoise, mais quand j'y vais, on est deux Blancs dans la salle. Il y a moi puis elle. Tous les élèves, ce sont des Haïtiens, des Arabes, des gens de l'île Maurice. C'est l'ONU au complet.
Ouais.
Ils sont en secondaire 3, puis ils écoutent discussion avec mes parents.
Ils sont pas obligés, là. C'est pas un devoir, là.
Ils se reconnaissent là-dedans malgré leur religion. Il y a des Syriens, il y a des musulmans, il y a de tout, évidemment, tu sais, malgré la différence culturelle. J'avais pas prévu, j'avais pas vu venir, puis tu le vois à peu près jamais venir, ces affaires-là, que ce soit de l'humour, de la musique. Tu sais jamais trop comment les gens vont réagir à ce que tu fais. Tu contrôles le processus, le résultat. Vas-tu vendre des tickets ou non? Ça va savoir de la cote d'écoute ou non? Tu sais jamais trop ce qui va arriver, tu sais. Tu peux prévoir ou espérer, mais tu sais pas ce qui va arriver vraiment. Donc, nous, le succès, puis surtout la saison 2, on a fait un jump de cote d'écoute de 40%. On est rendu à 1 200 000, sans compter les gens qui l'écoutent sur tout.tv, parce que ces chiffres-là, on ne les connaît pas. Radio-Canada ne les divulgue pas.
Non, même pas à l'interne.
À personne, ni aux journalistes. Et boys. J'aimerais le savoir.
C'est weird.
Je ne sais pas pourquoi.
Okay.
Mais ces chiffres-là, qu'on évalue, nous, à peu près 100 000 personnes par épisode.
Okay.
Vite de même. Okay. Mais c'est un chiffre très évalué. C'est pas des données, là. Fait que, bref, tout ça pour dire que oui, ça je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, je pense que la famille, j'ai deux explications. Je pense que la famille, cette unité-là, peu importe que tu aies eu une famille de rêve ou une famille merdique, ou comme la plupart des gens, à quelque part entre les deux, c'est le passé dont tu ne peux te sauver. ta famille, c'est tes origines, c'est ce qui est ancré en toi. Même si tu fais des thérapies pour oublier certaines affaires, il reste que c'est en toi, que tu le veuilles ou non. Et de voir une émission sur la famille, ça te ramène à la tienne. Et tu reconnais inévitablement des gens, des comportements. La relation père-fils ou mère-fille, c'est toujours, peu importe d'où tu viens, un mélange d'amour, de confrontation. Il y a une différence de valeur entre les deux. C'est toujours une espèce de tango que tu danses entre des gens que tu apprécies vraiment, mais mon Dieu, qui te font suer des fois. Puis, et ça, tu te reconnais là-dedans, peu importe que tu sois une Asiatique de 15 ans ou un gars de Québec qui en a 75, tu as vécu ça à quelque part, t'sais.
Mais celle qui joue ta mère est incroyable aussi.
Marie-Ginette Guy, qui habite Québec d'ailleurs, qui enseigne au conservatoire ici à Québec auprès des jeunes étudiants acteurs et qui fait l'aller-retour à toutes les semaines quand on tourne de Québec-Montréal dans l'autobus.
Ah oui, oui?
Oui, oui, oui. Non, non, Marie-Ginette, c'est une vintage.
Elle a été castée comment?
Elle a été castée en casting. On engage ce qu'on appelle une agente de casting dont elle reçoit tous les rôles de toute la série. Donc, une femme... Le personnage a 75 ans, donc il faut qu'elle puisse avoir l'air de ça. Et puis, on a une liste de peut-être 6 ou 7 actrices qui viennent en audition. Et moi, j'étais présent à chacune des auditions. Puis, je vais être honnête, je la connaissais pas moi non plus.
Okay.
Je n'avais aucune idée c'était qui. Elle est rentrée, je vais être « Wow, c'est qui ça? » Un mélange de drôlerie, de sensibilité. Puis en plus, j'étais très allumé par le fait qu'on la connaissait pas parce qu'elle devenait ma mère. Si ça avait été une super vedette de la télé, ça aurait été plus dur pour les gens d'oublier que c'est une telle que non, non, c'est la mère de François Morancy. Tu sais.
Ouais, c'est là, pas Guylaine Tremblay.
Non, là. C'est ça. Là, elle se fait appeler Madame Morancy quand, quand elle
ben
va
oui,
dans la rue quelque part.
Chez Madame Morancy!
C'est ça. Puis, c'est vraiment, on engage des gens qui sont des experts, qu'on appelle des agents de casting, qui, eux, connaissent tous les acteurs et actrices, peu importe la génération. Et quand il y a une série ou même quand on a des nouveaux rôles qui se rajoutent, ben on la contacte pour dire « OK, ça me prend un gars dans la quarantaine, qui physiquement qui a l'air de telle affaire, qui aurait une facilité avec tel genre d'attitude. » Puis elle nous envoie des photos avec une description d'à peu près 10 ou 15.
C'est que toi, tu n'avais personne que tu préférais avoir pour aucun des rôles en partant?
Non. En fait, pour être honnête, lorsque tu commences une série, autant le réseau que toi, que le producteur, tu penses aux grosses vedettes.
Ouais.
Tu dis, ben, OK, fait que mon père, ça pourrait être Michel Côté, ça pourrait être Marc Messier, ça pourrait être Gilles Renaud. Tu sais, tu penses à Gilbert Sicotte. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu dans une grosse vedette que tout le monde connaît, mais en même temps, ça va être dur d'oublier. Mettons que c'est Michel Côté, mon père. C'est Michel Côté. Je l'adore. J'ai animé un gala hommage à Michel Côté, moi, il y a 2 ans. Je veux dire, je m'entends super bien avec, mais il reste que c'est Michel Côté, tu sais. Comment tu peux passer outre le fait que c'est lui, aussi bon acteur soit-il? J'ai dit, c'est sûr, on va les appeler, voir, ça les intéresse-tu? Voyons que tout d'un coup, que la décision, c'est pas nous qui avons à la prendre. Fait qu'on a appelé Michel, Marc, Gilles Renaud, Gilbert Sicotte et un autre dont j'oublie le nom. Ils avaient tous quelque chose qui faisait que ça marchait pas. Ils étaient déjà en tournage où Michel, Côté, m'a dit, ça m'intéresse au bout, mais il dit, là, je pourrais pas te garantir plus qu'un an ou deux. J'ai dit, ah ben ça, moi, j'espère qu'on va faire plus qu'un an ou deux. Là. Fait que finalement, la décision s'est prise de soi qu'il fallait aller avec des gens moins connus. Et là, est arrivé Vincent Bilodeau en entrevue que je connaissais un peu, parce qu'il y a quand même une super carrière, Vincent. Et puis, il est arrivé, puis pouf, j'ai fait « OK, c'est lui mon père ». Ça, c'était lui. Puis après, on a engagé la mère. On a fait des auditions à 3, moi et Vincent, avec les filles qui voulaient jouer ma mère. Pour former un trio, il fallait que ce soit crédible, il fallait que... En les voyant, on croit que génétiquement, ça se peut que ces deux personnes-là aient fait cet enfant-là. Il fallait qu'il y ait une chimie de couple. C'était pas juste deux bons acteurs. Il fallait que ça fasse un bon duo. Puis après, on a fait comme ça, de façon pyramidale, si tu veux. Chaque acteur est venu une fois se rajouter aux autres déjà engagés pour créer une vraie famille, une vraie ambiance crédible. Et je pense que c'est un des éléments du succès de la série, c'est que on y croit à cette famille-là. On croit que Blaise Tardif, qui joue mon frère, ouais, il pourrait être son frère. Ils ont les yeux de la même couleur, tu sais, bon... Caroline Bouchard, qui joue ma sœur, aussi une fille de Québec. Le hasard a fait que Vincent Bilodeau est né à Québec. Marie-Ginette vient de Québec. Caroline Bouchard est née à Québec.
Est-ce que c'est un hasard?
Honnêtement, oui. Tout à fait, parce que moi, c'était pas mon critère. J'avais pas dit, hey, ça prend les acteurs de Québec.
Non, mais ma question demeure. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas un ADN de venir de Québec qui a paru?
Oh! Si oui, c'est inconscient. Vas-y.
C'est que peut-être que tu viens de Québec. Tout le monde était à Québec. si tu viens de Trois-Rivières ou tu viens de Chibougamau, t'es pas exactement la même personne. Peut-être que ces acteurs-là ont du Québec dans le sang qui a paru lorsque tu étais en train de caster. T'sais.
Peut-être, mais je te dis, c'était vraiment inconscient.
Oui, non, tu cherchais pas ça, absolument.
Mais j'ai pas dit, OK, ça prend quelqu'un qui dit pas
non,
tôt.
Non, je comprends, exact. Ouais, c'est ça. Pas quelqu'un qui veut monter une pétition.
Ouais.
Je sais pas dans quelles années à peu près ça se situe, par exemple, pour toi, dans ton souvenir. Là, c'est clairement pas l'année passée. Là, ce qui,
on parle
ce
de quoi, tu veux dire?
Ben, l'époque où la série se situe. C'était-tu genre en 2010, à peu
c'est
près?
Prêt, c'est contemporain.
Très
c'est maintenant.
Contemporain.
Mais chaque année, on vieillit d'un an. Donc, l'année 1, on était en 2017.
Mm-hmm.
2018, excuse-moi. Et les flashbacks, parce qu'on fait des flashbacks quand j'étais, moi, petit, puis que je joue mon père, étaient en 78. Donc, c'était 2017-78. L'an 2, c'était de 2019 et 79.
Ah oui, OK.
Et l'an prochain, on va être en 2020, et les flashbacks en 1980.
Okay. Est-ce que tu passes autant de temps que ça chez tes parents?
Non. Non, non, c'est de la fiction. Pour la même raison que dans District 31, il n'y a aucun poste de police où il arrive autant d'affaires à tous
c'est
les
vrai?
Jours.
C'est vrai? Ah, je pensais que c'était
on appelle ça faire de la TV.
Non, mais c'est ça. Mais je veux dire, est-ce que tu les visitais souvent? Est-ce que tu étais quand
à
même
à l'époque où
ils étaient
vivants, oui, absolument.
Oui, c'est
ben, ça. Je venais peut-être une fois ou deux semaines au moins.
OK.
Oui.
Fait que c'était quand même assez fréquent. Là.
Tout à fait. Oui, oui.
Oui,
oui. Oui. Okay. Mais pas autant qu'à la TV, parce que on fait de la TV, fait qu'on fait croire que... Ouais.
Puis comment t'as passé de « OK, on va raconter des vraies histoires » à « On va s'essayer à faire de la fiction basée sur les personnages que maintenant les gens commencent. »
Je dirais par la force des choses.
C'est un flash qui est arrivé? Ou?
Non, c'est par souci de dire « OK, qu'est-ce qui serait intéressant de raconter? Qu'est-ce qui... » Des fois, c'est des histoires que quelqu'un me raconte que ses parents ont faites ou ont dit ça. Puis je fais « Ah! » Je pourrais empirer ça. Oui, dans un certain sens, tu l'empires. tu l'exagères, tu le travestis un peu. Ouais. Mais rendu là, tu te nourris d'un paquet d'anecdotes vécues, imaginées, qui des fois, tu dis, mon père n'a pas fait ça, mais il aurait très bien pu faire ça ou dire ça. Puis rendu là, ben, c'est rendu de la fiction, mais une fiction qui doit demeurer crédible à l'endroit des personnages. Il faut qu'on y croit qu'ils auraient fait
ou dit ça. Tu tombes pas dans l'absurde, là.
Ben, il y a un peu d'absurde, c'est un peu plus absurde que ça l'était, mais c'est pas la petite vie, là, tu sais, c'est pas... ils coucheront pas de bout, là, tu sais,
ils auront
pas une fausse barbe, là, tu sais.
Puis ça se déroule comment, un tournage? C'est-tu assez classique ou bien il y a vraiment des paramètres un petit peu spéciaux par rapport à d'autres projets du genre?
Nous, on tourne... tout ce qui est intérieur se tourne en studio. Okay. À Ville-la-Salle. On a recréé l'intérieur de la maison avec des décors, finalement. Et puis, on tourne de la fin mai au début août, à raison de 4 à 5 jours par semaine, des journées de 12 à 14 heures. Donc, c'est très intense.
Fin mai à début août?
Oui.
C'est quasiment 2 mois que tu viens de dire.
Oui.
2 mois à temps plein?
Ben, on a toujours 2 jours de vacances au moins par semaine.
Non, non, mais quand même, ben, temps plein. 5
ouais.
jours.
Oui.
Mon Dieu, ah ouais, OK. C'est...
Et voilà, puis on a, je dirais, 70 % de la série qui est à l'intérieur dans les décors et un 30 % à l'extérieur pour les scènes du devant de la maison, des scènes dans des commerces, épiceries, des centres d'achat, des choses comme ça, qu'on va louer, évidemment, puis on va tourner souvent la nuit.
Puis toi, tu l'écris avec qui? Avec Benoît Pelletier?
J'ai écrit beaucoup avec Pierre Prince, qui est un collègue humoriste que les gens connaissent moins, qui a surtout été auteur.
Que tu as travaillé beaucoup avec en radio.
Oui, absolument. Pierre a travaillé sur mes spectacles, mes galas que j'ai animés aux Oliviers, tout ça. Et puis cette année, ça c'était pour l'an 1. Pour l'an 2, Benoît Pelletier, qui est un autre scripteur avec qui j'ai un long historique de collaboration, s'est joint à nous pour l'an 2. Et pour l'an 3 que j'écris présentement, il y a Pierre et il y a Benoît. Et il y a une fille qui s'appelle Caroline Allard, qui est une auteure de livres essentiellement. C'est elle qui a écrit Mère...
Rindigne.
Mère Rindigne, voilà, merci.
Ah, mais c'est pas un blog, ça?
Ben, c'est un blog, mais peut-être qu'elle a écrit un livre aussi, là, je sais pas.
Elle a fait des livres avant d'en faire un blog.
Ouais, ouais, mais c'est connu.
Et bref, Caroline s'est jointe. Je trouvais important d'avoir l'univers d'une fille aussi dans l'émission.
Puis là, quand t'arrives, là, t'écris tout ça, là, t'as ton texte, tout est... Puis quand ça tombe dans les mains du réalisateur, y a-tu des choses qui changent en cours de route ou bien c'est canné direct?
L'équipe est très tissée serrée dans la mesure où moi, quand j'ai... là, je viens de finir, vois-tu, l'épisode numéro 6 de la saison 3, je l'envoie aux producteurs et aux réalisateurs qui me donnent leur feedback. Donc déjà, le réalisateur...
De tous ordres.
Sur la structure,
t'es
sur les références.
T'es sûr que lui dirait ça, ce bout-là?
Vraiment, on est un... On laisse l'ego à la porte.
Autant
moi, je vais challenger leurs décisions à eux sur des décisions de production ou sur la façon de réaliser ou tel plan ou la musique. Tu sais, on est 3 qui s'impliquent dans tout. On est vraiment tissé serré. Puis la décision ultime, c'est le bien de l'émission.
Et qui la prend? C'est qui tranche en bout de ligne?
On n'a jamais eu à se rendre là.
OK.
Quand il y en a un qui n'est pas d'accord, on argumente et tout le monde sur. C'est-tu quoi? T'as raison, faisons ça comme ça. Il n'y a jamais eu de discorde de ah non, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Il y a toujours un gros bon sens qui fait qu'on s'entend finalement sur la bonne décision à prendre au niveau du texte ou du jeu ou du montage.
Incluant pendant le tournage.
Incluant pendant le tournage.
OK, c'est qu'il n'y a pas d'ego à protéger. Là.
Zéro.
Il n'y a pas d'affaire de...
Zéro.
C'est pas ça à François.
Jamais, jamais.
Non, moi, même... Toi, je connais, je sais que t'es pas de même, mais...
Même les acteurs, je leur dis, si vous avez une meilleure idée que ce que j'ai écrit, là, gênez-vous pas.
T'sais. OK.
Quand on tourne, si toi, tu penses que tourner la phrase demain, ce serait mieux... Go!
Puis sont-tu déstabilisés par ça? Parce qu'on imagine souvent les acteurs comme étant des perroquets. Là.
Ouais. C'est comme... ben, ils apprécient, ne serait-ce que le feeling que s'ils ont une idée, je suis ouvert à.
OK.
Ça les rend tous plus relax, puis ils sentent pas qu'ils passent un test, puis ils sentent pas qu'ils ont le gun sur la tempe, puis ils sentent que c'est très amical. C'est un show sur la famille. Fait qu'il faut recréer cette ambiance-là aussi. Très bon enfant, tu sais, on s'agace énormément.
Ah
tu sais
oui,
que je suis un peu taquin, moi.
Fait qu'on
se fait des coups. Okay. C'est vraiment...
Vous faites pas chier pendant 12 heures
bon,
là, de
tellement,
la grosse lourdeur.
Mais c'était un de mes critères quand j'ai engagé des acteurs. Et même le staff en général, ça prend du monde fin. Du monde talentueux, il y en a...
T'as pas de technicien chialeux, là? Que...
Impossible. Okay. Ça durerait 20 heures.
Ah, ouais.
Ça durerait une journée, puis il serait out.
OK. C'est pas cette culture-là.
Impossible. C'est impossible parce qu'on est tous des gens... très bon enfant, on aime ça rire, c'est une show de comédie, fait que même si on travaille sérieusement, il reste qu'il faut livrer la marchandise, mais il faut que ce soit dans le bonheur.
Mais il n'y a pas un chef pendant le tournage particulier?
C'est le réalisateur qui est comme le grand chef dans la mesure où c'est le seul... Le réalisateur, c'est le seul qui ne peut pas se foutre du travail des autres. À quelque part, l'acteur, il a son rôle, fait que l'autre rôle, c'est moins
puis
sa responsabilité.
Le gars du son, là, c'est pas de ses affaires.
C'est ça, ouais. Puis l'éclairagiste, le texte, lui, tant que c'est bien éclairé, c'est pas sa job. Tandis que le réalisateur, il faut qu'il soit au courant de tout. Il faut qu'il soit au courant de chaque rôle, chaque réplique. Le son, l'éclairage, les textes, le montage, c'est lui, c'est un peu Dieu sur le plateau, dans le sens où, quand il y a une question, on se retourne vers lui. Et lui a à avoir des réponses.
Okay.
Moi, étant l'auteur et l'acteur principal, c'est sûr que je l'aide beaucoup. Puis ça lui donne un coup de main dans la mesure où de savoir que des fois, quand il est pas sûr, on me dit « Hey, telle affaire, oui, puis on en jase, puis on est deux têtes, puis ça, c'est toujours un plus. »
Puis il n'arrive jamais à une croche. T'as aucun...
Non. Il y a eu des moments, si tu veux, il y a des journées où on est moins dedans, où tu es moins performant, où mais un vrai incident là, qui a créé un malaise qu'il faut que quelqu'un s'excuse parce que moi, j'ai jamais vécu ça. Pas avec ce show-là.
C'est-tu toi qui as fait le pitch suite au livre ou quelqu'un t'a appelé?
Mélange des deux. J'étais allé à Tout le monde en parle à l'époque. Avant que le livre sorte, je faisais la promotion à l'époque des Oliviers. Et puis sur ma page Facebook, parce que le livre est né sur Facebook, hein, c'est un statut
Facebook que j'ai
écrit. Et Guillaume Lepage...
Non, mais dis-le, c'est pas tout le monde qui le sait, c'est intéressant ça.
Ah ben, l'histoire, c'est que moi, on remonte à il y a 6-7 ans, j'appelle mes parents, puis ils se mettent à s'obstiner au téléphone, comme on le voit dans la série.
Ouais.
Puis je trouve ça drôle. Puis je l'écris sur Facebook, je raccroche, puis je fais un statut Facebook, puis je dis « Hey, j'ai parlé à mes parents, ils ont dit ça. » Là, gros...
T'écris ça genre « Papa, deux points, la même affaire. »
Intégral. Le gros succès des likes puis des partages puis tout ça. Fait que je vais m'en faire un autre, puis deux, puis cinq, puis dix. Puis à un moment donné, au bout de 15, je vois Tout le monde en parle. Puis Guilla, il fait mettre sur des cartons certains de ces dialogues-là. Il dit, c'est très drôle ce que tu fais. Peux-tu en lire quelques-uns? Fait que j'en lis quelques-uns, Tout le monde en parle. Puis là, la patronne de Radio-Canada, Dominique Chaloux, et le boss des variétés, pas des variétés, mais des dramatiques, André Béraud, voit ça. Il se texte, dit, hey, c'est un show de télé, cette affaire-là. Et puis là, le livre sort, puis tout de suite, on me fait une offre de ce qu'on appelle du développement. Donc, d'écrire deux ou trois épisodes, d'écrire ce qu'on appelle la bible de l'émission, donc d'écrire les personnages. Et là, t'es en développement pendant quelques mois. Et très rapidement, on m'a dit, OK, go, on part en production, t'es en onde dans 8 mois. Fait que là, fallait écrire 13 épisodes, engager le staff. On n'avait rien. Là. Ça, c'est quand le train passe, tu t'embarques, comme on dit. Là.
Ouais.
Ça, c'est un exemple
flagrant. Mais ça part vite, c'est ça que tu dis.
C'est fou comment ça a parti vite.
Ouais.
Mais là, c'est ça, tu peux pas dire non.
Puis t'as un deadline.
Les
caméras vont tourner telle date, tu sais ça, des mois d'avance.
Ben, tu sais surtout la date où t'arrives en onde.
Après ça, tu recules.
Nous autres, le vrai goal, on l'a eu au début décembre et on était en onde en septembre suivant.
OK.
Et là, j'avais rien. J'avais juste 3 épisodes d'écrit. Pas d'acteur, pas d'équipe, pas de réal, pas de décor.
Puis t'en as 13 à faire.
J'en ai 13 à faire.
Ah, ben oui.
Quand tu as écrit le livre, François, ou même quand tu as fait les premiers statuts Facebook, est-ce que c'était en arrière-pensée de peut-être amener ça à l'écran, m'emmener 0-0? Hein?
Moi, déjà que ça devienne un livre, c'était déjà, j'avais dans ma tête poussé cette idée-là à son maximum. Je me suis dit, OK, on a fait un livre. Le livre devient un best-seller. On en a vendu, je pense, 35 000. C'était comme, moi, là, c'était comme, OK, je peux cocher, ça, c'est fait. Jamais j'ai écrit le livre en me disant, OK, je vais le mettre en page pour favoriser, si tu veux, une série télé, qu'on la voit ou que les dialogues soient télévisuels. Ou j'ai pensé, faisons le meilleur livre possible. Puis voilà. Mais c'est une bonne question parce que c'était... C'est vraiment... la preuve de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de petites idées. Un statut Facebook devient une série télé en dedans de quelques mois. C'est parce que, tu sais jamais, les idées, des fois, sont plus fortes que les gens qui les créent. Des fois, l'idée va t'informer que, hey... t'as pas fini avec moi, tu sais. Alors que d'autres fois, tu bûches comme un malade sur un projet que tu penses, puis finalement, non, ça aboutit pas. Ça, l'idée te dit, non, moi, je suis morte. Fait que...
c'est très vrai. Puis c'est absolument vrai.
Des fois, c'est l'idée qui va... Mais il faut que tu sois ouvert à. Puis il faut que tu saches dire oui quand c'est le temps. Si j'avais refusé quand on me l'a offert en disant, hey, ça va être bien trop rapide, possiblement que ça n'aurait jamais vu le jour.
Non, je te suis. Qu'ils
auraient... Il y en a à peu près 40 qui attendent en ligne là, pour prendre ma place, là, tu sais, là. Fait que faut que tu saches quand le train passe, dire OK, ça me contrarie, ça bouscule mon horaire, c'est pas ce que j'avais prévu, mais go.
Puis ce qu'on appelle la viralité maintenant avec les médias sociaux, c'est vrai dans tout. Dans ton cas, ce que je comprends, la viralité, elle a été entre autres initiée par Guilla sans que tu le saches.
Oui.
Ben, en fait, il a rendu ça viral, entre guillemets. Il a ramassé ça, tu savais même pas.
Non.
Parce que quand c'est viral, t'es pas responsable. C'est d'autres personnes.
Oui.
Qui propage le truc.
Si toi, tu as une allumette, puis quelqu'un vient mettre du gaz dessus.
C'est ça. Lui, il a fait ça, ça a été entendu par ça, puis là, tout à coup, hop, t'as reçu, c'est intéressant.
Oui, puis en plus, bien évidemment, ça prouve aussi que la télé, malgré le fait que les codes d'écoute soient en érosion, puis que les gens migrent vers le web, la télé demeure encore aujourd'hui, en 2000, presque 20, le média qui rejoint les masses de façon spectaculaire. Moi, je l'avais vécu quand j'animais des talk-shows à l'époque, quand on était en affaires ensemble, Marc. Quand j'aimais le point J, puis merci, bonsoir, et tout ça, je le voyais à quel point, tu sais, c'est fou à quel point tu te rends dans les maisons des gens. Puis je l'ai vécu en animant des galas, des Olivier qui avaient quasiment des 2 millions de codes d'écoute. Mais ça, c'était un one-shot. C'est 2 millions, ouais. Ça dure une soirée. Ouais. Pendant 3 jours après, tu n'entends parler à chaque 10 minutes. Puis après ça, pouf, ça arrête du jour au lendemain. Tandis que là, une série comme Discussion, c'était à toutes les semaines. Chaque lundi soir, 1 200 000. Bon, OK. Oui. Fait que là, quand tu vas à l'épicerie, ça te jase.
Tu vois la différence plus jamais?
C'est fou. C'est pas seulement sur le rayonnement que l'attachement, l'affection que les gens me témoignent maintenant qui est plus grande que ce que j'ai vécu avant.
C'est que ça dépasse le « on aime ce que tu fais ».
Oui.
Là, c'est rendu « on aime quitter ».
C'est personnel. Ah, là, c'est personnel.
Tu vois qu'ils te connaissent pas.
Oh.
14h33, on finit là-dessus. Après ça, on parlera pas de Morancy tout le long.
Ben, j'espère. Moi-même, je t'ai écœuré de m'entendre.
Mais non, arrête. C'est très, très intéressant, bien au contraire. Ça fait qu'on fait une petite